Bonjour, aujourd'hui le 12 juillet, nous célébrons la fête de Saint-Jean-Gualbert. Un des moines les plus importants de l'histoire des moines, on a célébré hier la fête de Saint-Benoît, et aujourd'hui c'est la fête d'un réformateur de l'ordre de Saint-Benoît qui a fondé Vallombreuse, je vous expliquerai ce que c'est. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Nous avons aussi quelques autres saints, et nous allons commencer donc avec Saint-Jean-Gualbert qui est mort en l'an 1073. Il y a eu plusieurs réformateurs de l'ordre des bénédictins, vous direz, mais comment se fait-il, les bénédictins avaient-ils besoin de réforme des moines? C'est sérieux, mais oui, des moines c'est sérieux, mais souvent la richesse, les dons qu'ils reçoivent de terres immenses ou de sommes fabuleuses, les gens leur donnant tellement d'argent à travers les siècles qu'ils en arrivent parfois à plus ou moins perdre leur idéal. C'est aussi le fait de la simonie. Je vous explique que la simonie, n'est-ce pas, c'est un trafic scandaleux des valeurs spirituelles. C'est-à-dire que l'on achète au besoin un titre même d'évêque ou d'archevêque. Ça s'est fait, et ça s'est fait souvent autrefois. Vous savez que nous vivons dans une époque merveilleuse, dans un sens où ces choses-là, pour ainsi dire, n'existent plus. Mais à l'époque, il y a 1000 ans, de Saint-Jean-Gualbert, cela existait énormément. Il y avait aussi une inconduite terrible des clercs. Alors qu'aujourd'hui, même si on parle de l'inconduite de certains de nos prêtres, nous pouvons dire avec Mgr Turcotte, archevêque de Montréal, et quantité d'autres évêques à travers le monde, que la conduite générale des clercs est infiniment supérieure à ce qu'elle a à peu près jamais été. C'est dire aussi que c'est pas facile d'être un saint. C'est pas facile de vivre selon son idéal spirituel. Et les moines ont eu des problèmes. Ils ont beau être des moines, cloîtrés, enfermés, ils sortent à l'occasion, et puis souvent ils perdent par l'ennui, la sécheresse intérieure, des émotions personnelles, un développement psychologique de leur personnalité qui va pas. Vous savez, vous connaissez tous les problèmes qu'un être humain peut avoir, nous en avons tous. Alors, il ne faut pas trop accuser les moines qui ont eu besoin de réforme, mais il faut s'émerveiller devant des hommes comme Saint-Jean-Gualbert. Sa vie a été retracée par un grand nombre d'auteurs anciens. Pardon. Mais tous ont puisé aux mêmes sources. C'est la vie écrite par un disciple du saint qui s'appelait André. C'était l'abbé du monastère de Strumie. Et il y a aussi des successeurs comme Aton, qui était abbé de Vallombreuse, ce monastère où Saint-Jean-Gualbert a accompli sa réforme. Aton, qui est devenu plus tard évêque de Pistoie, c'est-à-dire en Toscane, dans le beau pays de la Toscane, en plein cœur de l'Italie. À l'aide de ces documents, on va essayer de retracer la vie de Saint-Jean-Gualbert. Jean-Gualbert est né près de Florence. C'est très beau, hein? Vous êtes déjà allé à Florence, je l'espère. C'est magnifique. Il est né vers la fin du 10e siècle. Et la seule date à peu près certaine de sa vie, mais c'est celle de sa mort. Il est mort, en effet, le 12 juillet 1073, il y a un peu plus de 900 ans. Il serait mort à 88 ans, dans les villes italiennes du nord de l'Italie. Il y avait là des petites guerres qu'on appelle des factions ou des rixes. C'est comme ça qu'on appelle ça en général dans les livres d'histoire. Ce sont des petites guerres qui font peu de morts, mais qui font régner des tas de difficultés, un peu comme on dirait en Sicile aujourd'hui avec la mafia, ou dans certains quartiers des grandes villes américaines où il y a des rixes, des factions justement. Et alors un parent de Jean-Gualbert a été tué dans une de ces rixes. Alors les gens ont eu peur que les Gualbert, qui étaient puissants, ne se vengent. Alors l'assassin d'un membre de la famille des Gualbert avait vraiment peur de rencontrer quelques parents de sa victime, et un jour, Jean Golbert se rendait à Florence. Il était accompagné de ses hommes d'armes, comme on dit, des soldats qui l'accompagnaient, qui faisaient partie de sa famille, de son château. Et alors, il a rencontré son ennemi au détour d'un chemin très étroit. Son ennemi était tout seul. Et il n'a pas laissé de passage à droite ou à gauche à ce pauvre homme. La partie n'était pas très égale. Hein? Alors, il s'est senti perdu, ce pauvre homme. Pauvre homme, c'était un assassin. Alors, il s'est jeté en bas son cheval, et la tête baissée, les bras en croix, il a attendu la mort. Mais notre jeune Jean Golbert était un homme sensible, il a été ému par les larmes de cet homme, de cet ennemi de sa famille. Il a été ému aussi devant les tremblements et la crainte que cet homme avait. Mais il a été encore beaucoup plus ému par l'image de la croix que traçaient les bras de son ennemi qui était à genoux. Il lui a dit de se relever, il l'a laissé s'en aller. Et lui-même, en poursuivant sa route, s'est trouvé près d'une église, puis il y est entré dans une église. Et tandis que Jean Golbert prie devant la croix, il assure avoir vu soudain la tête du Christ en croix se pencher davantage, comme pour le remercier de s'être montré son disciple en épargnant son ennemi. Alors il était étonné. Et de plus en plus ému de ce spectacle, Jean Golbert s'est pris à rechercher comment il pourrait davantage plaire à Dieu. Parce que la consolation qu'il avait éprouvée devant cette tête du Christ qui s'est penchée vers lui avait rempli son âme d'une joie à nulle autre pareille. Et dans la certitude, je pense bien que chacun d'entre nous a d'avoir plu à Dieu en posant un geste difficile. Nous savons jusqu'au fond de notre être combien nous sommes en paix et heureux de l'avoir fait. Cet événement s'est placé au début du 11e siècle, donc au début de ce millénaire qui s'achève actuellement, et on peut dire que Jean Golbert avait à peu près 18 ans. Rentré à Florence, Jean Golbert a trouvé le moyen de se séparer de son écuyer, c'est-à-dire cet homme à cheval qui l'assistait constamment dans toutes ses démarches, l'arme au poing. Il est allé se présenter au monastère de San Miniato, un des endroits les plus beaux du monde, ce San Miniato. C'est aller là et mourir, dirait-on, hein? Alors là, il a raconté à l'abbé du monastère son aventure et son désir de quitter le monde. Mais l'abbé voulait éprouver son désir. Il fallait aussi prévoir la colère de son père, le chef de la famille, M. Golbert. Et ça n'a pas tardé à se déchaîner. Après avoir parcouru toute la ville, ce M. Golbert, le père, il est venu enfin à San Miniato, au monastère. Là, il a voulu arracher son fils de force, mais tandis que son père tempêtait et discutait avec le père abbé, eh bien, Jean Golbert s'est fait donner un habit de moine bénédictin, s'est fait couper les cheveux, parce qu'on se fait couper les cheveux quand on entre dans un monastère. Je me souviens, en 1944, on m'a rasé de près. Ça fait très étrange. On a l'air des prisonniers. Et puis, il est venu se placer dans le cloître, Jean Golbert, puis dans le cloître, c'est-à-dire la section du monastère. Je le dis pour les plus jeunes qui ne sauraient pas ce que c'est. C'est une section qui est à... Il n'y a pas de fenêtre, c'est à jour. Il y a des beaux arcs de pierre. Hein. C'est très, très beau. C'est comme une espèce de promenade, si on veut, un grand carré en promenade autour d'un jardin. Souvent, il y a une fontaine dans le centre du jardin, qui n'est pas très, très grand, mais c'est quand même assez grand. Et les moines peuvent se promener comme ça, en carré, et ils peuvent entrer ainsi dans les différents lieux communs, comme on peut dire, les lieux où ils vont pour se réunir, pour prier, pour étudier. C'est magnifique, hein? Les cloîtres sont parfois très, très beaux. Donc, il s'est placé dans le cloître, Jean Golbert, s'est mis à lire. Et là, le père abbé, il n'avait pas remarqué ça, Puis il s'est retourné, puis il a perçu Jean Gualbert, il a offert à M. Gualbert, appelons-le comme ça, d'aller rencontrer son fils, parce que le fils refusait de venir. Et après une nouvelle explosion de désespoir et de chagrin, là, le père s'est calmé. Ça arrive, ça. Il a béni son fils, puis il est parti. Ça me rappelle quand je suis rentré au monastère, mon père me disait le matin, il s'en allait au bureau, il dit, mon père n'était pas tellement croyant même, très peu. Puis il me disait, je ne comprends pas ce que tu t'en vas faire là-dedans. Si au moins tu rentrais chez les Dominicains ou chez les Jésuites, je comprendrais peut-être un peu. En tout cas, j'espère que tu n'aimeras pas ça puis que tu reviendras. Alors, mon père était très bon. Il me laissait partir à 18 ans quelques jours. Il était très compréhensif. J'en garde un excellent souvenir, même s'il n'avait pas tellement la foi. Et alors, les plaies dont souffrait l'Église catholique à cette époque, c'était, comme je vous ai dit tout à l'heure, la simonie, le trafic des pouvoirs. Puis il y avait aussi le concubinage des prêtres. C'était terrible. Et même de certains moines. Et alors, à San Miniato, ce monastère-là, c'était un monastère qu'on appelle clunisien. Ça veut dire un monastère qui dépendait de la grande abbaye de Cluny, dans le centre de la France. Cluny, qui était un monastère si vaste, si immense, que l'Église catholique en dépendait jusqu'à un certain point. Il y avait là plus de 1000 moines. Ils avaient plus de 1000 monastères dans le monde. Ils étaient extrêmement puissants. D'ailleurs, le musée de Cluny à Paris, que plusieurs d'entre vous devez connaître, c'est un très beau musée, c'était simplement la résidence de l'abbaye de Cluny à Paris quand l'abbé de Cluny se rendait à Paris. Alors, c'était un homme extrêmement puissant. Sont sortis du monastère de Cluny des papes, des cardinaux, des abbés de différents monastères. C'était un monastère bénédictin extrêmement vaste et puissant, dont il ne reste qu'une toute petite partie parce qu'il a été vendu au moment de la Révolution française et dans les années 1820, il a été petit à petit démoli. Ce monument d'architecture unique au monde a été détruit par l'inconscience, je dirais même l'imbécilité des gens de cette époque qui ne se rendaient pas compte que le propriétaire le démolissait pour vendre les pierres. Et on retrouve les pierres de ce magnifique monastère. Vous savez que l'église du monastère de Cluny était plus grande que l'église de l'époque de Saint-Pierre de Rome. C'est pas peu dire. Donc, San Miniato était un monastère clunisien. Et ce fut à cause de la ferveur qui régnait dans ce monastère que Jean Gualbert y est entré. Mais les facilités de la vie d'un monastère trop riche ont commencé à pénétrer dans le monastère. Puis à la mort de l'abbé, un moine nommé Hubert l'a remplacé. Et il l'a remplacé comment? En payant, par l'argent de sa famille qui était dans le monde, en payant à l'évêque le titre d'abbé du monastère. Imaginez, c'est terrible, c'est ça de la simonie. Alors, Jean Gualbert avait été supplanté par un rival, parce que tout le monde disait que Jean Gualbert allait être nommé abbé. Mais ça ne l'a pas troublé, c'était déjà un homme d'une grande paix intérieure. Mais ce qui le faisait souffrir, c'était d'avoir à obéir à un tel abbé. Alors, écoutez bien ça, ce qu'il a fait. Il est allé confier son anxiété, son angoisse, à un ermite du voisinage, un homme, un moine qui vivait seul. Et sur son conseil, il a traité publiquement l'abbé et l'évêque aussi, de simoniaques, c'est-à-dire de gens qui font le trafic des pouvoirs pour de l'argent. Nous poursuivrons dans quelques instants.
Thank you.
Alors, revenons à notre Saint-Jean Gualbert, réformateur des bénédictins. Il a fondé les Vallombrosiens. C'est comme ça qu'on les appelle, les moines qui dépendent de ce monastère de Vallombreuse. Et alors, notre Saint-Jean Gualbert n'avait pu, après avoir traité l'évêque et l'abbé de son monastère de Simoniac, c'est-à-dire en somme de voleur, bien, il ne pouvait plus que se retirer, n'est-ce pas? Alors il a fait ça aussitôt, puis il a gagné les montagnes de l'Apennin. L'Apennin, c'est, comme vous savez, c'est la grande chaîne de montagnes qui traverse toute l'Italie. Il est allé avec un compagnon, puis il s'arrêtait dans des différents monastères qui s'échelonnaient là, le long de la route, parce qu'il y avait énormément de monastères. Vous savez d'ailleurs qu'encore aujourd'hui, si vous voulez visiter des tas de monastères, vous pouvez vous procurer un guide des monastères qui est énorme. Le guide des monastères, c'est publié par les éditions Auré, je crois, et on peut acheter ça dans les librairies. Et vous avez toute la liste des monastères de France, de Luxembourg, de Belgique, et même, je crois, de Suisse. Mais simplement, en France, c'est fantastique, tous les monastères qu'il y a. La France, actuellement, est couverte de monastères. On ignore ça. Même ici, au Québec, il y en a de plusieurs. Dans les environs de Montréal, vous avez Oka, qui est facile d'accès. Vous avez Rougemont, très facile d'accès. Vous avez Sainte-Marie-des-Deux-Montagnes, les Bénédictines. Vous avez, évidemment, les Carmélites au métro Laurier. Vous avez Saint-Benoît-du-Lac, près de Magog. Et plusieurs autres petits monastères qui sont très intéressants à visiter, chez des Clarisses, et des Rédemptoristines, etc. Et alors, puis les Carmélites en ont d'autres à travers le Québec. Enfin, passons. Donc, ils vont de monastère en monastère, puis ils arrivent à Camaldoli. Camaldoli, c'est là où Saint-Romuald était mort depuis quelques années, en 1027. Saint-Romuald qui a créé l'ordre des Camaldules, dont je vous ai déjà parlé. Ce sont des moines qui vivent selon, en grande partie, la règle de Saint-Benoît, mais qui, vêtus de blanc, sont plutôt des ermites, presque comme les chartreux, qui sont, eux, vraiment des ermites. Et les Camaldules sont à la fois ermites et cénobites, c'est-à-dire cénobites des moines qui vivent ensemble. Alors là, ils ont été accueillis par le successeur de Saint-Romuald, et celui-ci n'aurait pas demandé mieux que de prendre dans sa communauté Saint-Jean Gualbert et son compagnon. Il les engagea à y faire le vœu de stabilité. Puis, il voulait même ordonner prêtre Jean Gualbert, mais si Jean Gualbert admirait le genre de vie des Camaldules, s'il admirait leur austérité, leur solitude, mais il ne voulait pas moins rester fidèle à la vraie règle de Saint-Benoît, telle qu'il l'avait vécue avant et telle qu'il rêvait de la vivre, parce qu'il voulait être cénobite. Il voulait vivre avec d'autres moines. Alors, il a quitté les Camaldules, il a repris la route de Florence, où il était né. Il s'est arrêté à moitié chemin, au bord d'un torrent, dans une vallée où il y avait beaucoup de conifères, c'est-à-dire des sapins, si vous voulez, des pins. Et tout le monde sait finalement ce que c'est que des conifères. Je dis ça pour quelques rares personnes qui pourraient l'ignorer. Et alors, cette vallée s'appelait, c'est très beau, Vallombreuse. C'est ainsi que la nomme Don Mabillon. Mabillon, c'est un bénédictin qui a vécu il y a quelques siècles et qui était un des hommes les plus cultivés du dernier millénaire. C'était un Don Mabillon. Quand on se réfère à Don Mabillon, on se réfère à un cerveau extraordinaire, un moine français. Et là, Saint-Jean Gualbert allait pouvoir enfin mener une vie monastique selon ses aspirations. Ça n'a pas tardé, évidemment, à attirer l'attention et surtout les sympathies. Parce que vous savez que quand les monastères ou les ordres religieux perdent leur âme, ceux qui les réforment, en général, s'ils ont du cœur, s'ils ont un certain équilibre, attirent inévitablement beaucoup de gens. C'est comme ça. Regardez, quelque temps plus tard, Robert de Molem va réformer lui aussi les bénédictins et va fonder ce qu'on appelle les cisterciens, qui ont été à leur tour réformés beaucoup plus tard par l'abbé de Rancé, qui a fondé la Trappe, d'où sont nés les trappistes. Et vous savez, toujours, il y a eu des réformes et ça a attiré énormément de gens. Les monastères se multiplient dans ce temps-là. Les vocations n'attendent que ça, que les ordres, que les congrégations, que les associations de gens qui veulent vivre une vie religieuse la vivent vraiment. Et non pas simplement avoir je ne sais combien d'autos, de maisons de campagne, des billets d'avion, etc. C'est pas ça du tout la vie religieuse qui attire. La vie religieuse qui attire, c'est celle qui s'offre vraiment dans un esprit profond de prière, d'amour, de service. C'est celle-là qui attire. Regardez Mère Teresa, elle attire les vocations. Et Dieu sait que les sœurs de Mère Teresa ne possèdent rien. Un seau de plastique dans lequel elles ont un 100 fois rien, une brosse à dents. C'est invraisemblable, mais c'est comme ça. Et alors, une des premières et des plus appréciées parmi les vocations qui se sont présentées, c'était une religieuse. Elle s'appelait, d'un drôle de nom, Ita, I-2-T-A. C'était une abbesse bénédictine d'un monastère qui s'appelait Saint-Hilaire, à qui appartenait le terrain de Vallombreuse. Elle l'a donné le terrain en 1039. Et elle a demandé à la communauté qui s'établirait là, sous la direction de Saint-Jean-Gualbert, de fournir chaque année à la fête de Saint-Hilaire, le patron du monastère, une livre de cire, c'est tout, et une livre d'huile pour les religieuses. Elle ne demandait pas grand-chose. Alors les moniales qui dépendaient de cette abbesse avaient aussi le droit, dans le cas d'une élection simoniaque, on revient toujours à ça, n'est-ce pas, si, dans le monastère de Vallombreuse, les moines se laissaient imposer un abbé qui avait été acheté, on peut dire, ben elles avaient le droit, les femmes, de chasser cet abbé, d'en nommer un qui soit digne à la place. C'est un pouvoir féminin, c'était des féministes, ces femmes, hein? Heureusement qu'elles étaient là. Alors, des recrues de choix se sont présentées bientôt. Elles étaient attirées par la perspective vraiment d'une vie rude, d'une vie mortifiée, d'une vie vraiment valable. Et la pauvreté était extrême, car Saint-Jean-Gualbert réservait le meilleur accueil à celui qui était pauvre et dénué de tout, plutôt qu'à ceux qui étaient riches, qui se présentaient, qui apportaient toutes sortes de richesses. Il avait peur de la richesse dans son monastère. Il avait vu le tort que ça faisait à bien d'autres. Alors la recommandation que Saint Benoît avait écrite dans sa règle, dont il a été un peu question hier, mais c'était suivi à la lettre. Le postulant, celui qui postulait, celui qui demandait à rentrer et qui était accepté, commençait par quoi? Par essuyer toutes sortes de rebuffades. Je vais vous donner un exemple de rebuffade. Quand je suis entré à Saint-Benoît-du-Lac, comme j'avais un nom double, ça impressionne des gens. Ça veut rien dire. Tous les Québécois, à peu près, ont deux noms de famille, puis on en a laissé tomber un vers 1870. Et parce que je venais d'Outremont, mais dans la section plutôt simple et très simple d'Outremont, moi, je venais de là. Mais il y avait un moine qui venait, lui, des hauteurs d'Outremont. C'était Don Vidal, que beaucoup de gens connaissent. Un jour, le père Prière, en 1945, je crois, au printemps, nous avait nommés tous les deux pour atteler un cheval, pour le conduire sur les terres du monastère, pour étendre du crottin de cheval. Et puis, il trouvait ça très drôle de nommer ces deux jeunes moines qui venaient d'Outremont, qui avaient fait leurs études au collège Brébeuf, qui était très réputé, et qui parlait peut-être un français un petit peu plus choisi. Bon, ça, c'est pas de notre faute. Et alors, on parle comme on parle. Et alors, il trouvait ça très drôle. C'est Don Mercure, qui nous aimait beaucoup. Mais c'est une rebuffade, hein? Mais nous, ça nous a beaucoup amusé, Don Vidal. Mais c'est pas Don Vidal dans le temps, c'était le frère Vidal et moi-même. Frère Beaugrand. Alors, le travail le plus relevé, eh bien, c'était le soin de la porcherie pour les... Pour ces gens-là, ça me rappelle une autre anecdote. Mon Dieu, il faudrait que je cesse de vous raconter des anecdotes. Vous savez qu'à l'abbaye Sainte-Cécile de Solesmes, après la Première Guerre, lors de la chute de la cour impériale d'Autriche, trois archiduchesses d'Autriche sont entrées dans ce monastère de Sainte-Cécile de Solesmes. À Solesmes, là, il y a les deux monastères, le monastère des hommes et le monastère des femmes. à peu près à 2 kilomètres de l'autre. Mais elles sont entrées là, et l'une des archiduchesses avait été nommée aux soins de la porcherie. Je me souviens que les gens disaient, c'était incroyable, une archiduchesse d'Autriche, la cour la plus somptueuse d'Europe du début du siècle. La fille de l'empereur François-Joseph s'occupait de la porcherie. Une autre de ces archiduchesses a été nommée prieure du monastère à un moment donné, beaucoup plus tard. Et la troisième, je me souviens plus ce qu'elle est devenue. Mais elles sont toutes les trois restées comme moniales, hein, cloîtrées, bénédictines, jusqu'à leur mort. Donc, le monastère de Vallombreuse, c'était pas facile. C'était quelques cabanes qui étaient groupées autour d'une chapelle en bois. Et ça rappelait pas mal le monastère des Camaldules qui avait été fondé pas tellement longtemps avant. Leurs vêtements étaient fournis par la laine non teinte du troupeau. Je vous raconte ça parce que ça peut être intéressant. Alors, ils étaient soucieux d'éviter les dissemblances entre les différents moines. Alors, ils leur donnaient qu'on mêle les laines blanches et les laines noires ensemble pour pas qu'il y ait des moines habillés en blanc puis d'autres moines habillés en noir. Hein? Parce que les troupeaux, parfois, il y a des moutons noirs puis des moutons blancs. Alors, l'habit des Vallombrosains, c'est comme ça qu'on les appelait, les moines, a été comme ça jusqu'au 16e siècle, d'un gris brunâtre, peut-on dire. Comme celui des franciscains, à peu près. Parce que le vrai costume des franciscains, c'est gris brunâtre. Aujourd'hui, c'est brun. Mais on a pu voir à Roxton Pond, ici, dans les cantons de l'Est, deux jeunes moines. Là. Le frère Denis Lévesque, que j'aimais beaucoup, qui avait fondé des franciscains de l'Emmanuel. Ils étaient habillés de gris. Ils le portaient rue Sherbrooke, rue Sainte-Catherine. Ils promenaient partout avec leur costume. Jusqu'à ces derniers mois, ils se sont retirés dans l'État de New York, où il y a d'autres franciscains gris, comme ça. Ils sont beaucoup plus nombreux. Puis alors, ils sont allés se former davantage auprès de la communauté de New York. Ils vont revenir au Québec. J'espère que ça va susciter des vocations intéressantes chez ces franciscains de l'Emmanuel. Alors, il est intéressant de remarquer, à ce propos des costumes et de la couleur, que les réformateurs au Moyen-Âge voulaient toujours porter un vêtement grossier, de laine non teinte. Et c'était le cas à Cîteaux, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Robert de Molène, qui a fondé les Cisterciens en réformant les bénédictins vers l'an 1100, je me souviens bien, c'est 1092. Et alors, il avait emprunté cette idée-là à Vallombreuse, qui a été fondée un peu plus tôt, à peu près 60 ans plus tôt. Et alors, il a fondé quelque chose d'assez extraordinaire, Saint-Jean-Gualbert, c'est l'organisation des frères convers dans les monastères. Des frères convers, c'est-à-dire des hommes qui s'occupent des travaux manuels, mais qui prient avec les autres moines. Saint-Jean-Gualbert consacrait vraiment tous ses soins à son monastère. C'était un père abbé fantastique à Vallombreuse. Il voulait vraiment réformer son monastère, puis il y est parvenu. Il était aimé, mais aussi il était craint, parce qu'il était assez exigeant. Hein? Et conformément à la règle de Saint-Benoît, il était quand même pour tous un modèle vivant. Par sa propre conduite, hein, qui enseignait ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Il était très sobre, constamment en prière. Il était aussi à donner aux veilles, ça veut dire savoir, durant la nuit, quand on ne dort pas, prier. Je me souviens à l'abbaye d'Aiguebelle, dans le sud de la France, le père abbé, qui n'avait pas grand temps à lui durant la journée, tellement l'administration de son monastère le prenait. La rencontre de ses moines en difficulté, la rencontre de nombreux prêtres en difficulté à cette époque dans les années 60 qui venaient d'un peu partout en France pour le consulter, car sa réputation de sainteté était répandue dans toute la France, le père abbé d'Aiguebelle, que j'aimais beaucoup, le père Jean, que j'avais interviewé à rencontre, deux entrevues qui ont fait sensation. Et cet homme, durant la nuit, je me souviens, arrivait, je veillais souvent la nuit, je dors pas beaucoup. Et j'allais à tâtons dans l'église, parce qu'il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait que la lampe du sanctuaire, et j'arrivais à me placer dans un coin de l'abbaye, de l'église abbatiale. Et je voyais au loin, tout à coup, à peine une forme blanche qui titubait un peu parce qu'il avait grandement mal aux jambes. Et cet homme extraordinaire s'agenouillait comme ça vers 3h moins quart de la nuit, 2h30 du matin. Là. Il s'agenouillait, ne bougeait plus. Il était adonné aux veilles, comme on dit. Quel homme extraordinaire! Il était silencieux aussi, était très charitable aux pauvres. Saint-Jean Gualbert donnait toujours le meilleur de ce qu'il avait et il gardait le plus mauvais pour soi. Il allait souvent vêtu très grossièrement. Et tout ça rayonnait, pas seulement dans son monastère, de tous côtés. La réforme s'est amorcée. Le fondateur de Vallombreuse, notre Saint-Jean Gualbert, en était vraiment l'un des principaux artisans. Et dans son rayon d'action, tout à coup, on a vu les prêtres renoncer au concubinage. Ils se sont mis, les prêtres, à pratiquer ce qu'on appelle la résidence, c'est-à-dire qu'ils habitaient vraiment la maison du prêtre. Ils n'allaient pas coucher n'importe où. Et ils s'adonnaient, ces prêtres, tout à coup, à leur ministère quotidien. Ils devenaient des vrais prêtres. Et quelques-uns même se sont constitués en communauté de chanoines dits réguliers. Je trouve ça toujours curieux, pour moi c'est un pléonasme, des chanoines réguliers, mais enfin. Et ça veut dire que ce sont des chanoines qui, au lieu d'être des prêtres ordinaires qui vivent dans un auprès d'une église ou d'une cathédrale, ce sont des chanoines qui vivent selon une règle. Et ils vivent presque comme des moines. Alors, notre Saint-Jean Gualbert lutte fortement contre toute forme de simonie. Et son renom de sainteté a attiré à Vallombreuse des moines, des clercs, des laïcs. L'exemple de la vie pauvre et détachée que l'on y menait était la meilleure prédication contre le luxe, contre tout ce qui était ridicule. Et à Vallombreuse se présentaient assez souvent des grands convertis, des prêtres concubinaires ou simoniaques se convertissaient, un peu comme auprès du père Jean dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il m'avait fait certaines confidences que c'était extraordinaire la quantité de prêtres dans les années 60 qui étaient effleurés ou qui songeaient sérieusement à quitter le sacerdoce parce qu'ils n'en pouvaient plus devant tous les changements qui s'opéraient. Et ils perdaient pied. Il faut les comprendre aussi, eux qui étaient entrés dans un clergé qui était plus ou moins honoré, respecté, qui avait un certain pouvoir spirituel, véritable. Tout à coup, se sont vus dépourvus. Quantité de laïcs se mettaient à attaquer les prêtres, attaquer l'Église. Et c'était très, très, très dur pour nos prêtres. Ça l'est encore aujourd'hui. Hein. Tout ce qu'on dit contre nos prêtres est terrible pour le cœur de ces hommes. Hein. C'est terrible. Ils ont presque peur de se promener avec un col romain, de crainte de se faire insulter ou d'être déconsidérés ou d'être vus comme des hommes peu intéressants. Et ce qui est tout à fait ridicule de notre part, si nous pensons comme ça, car les prêtres, si nous ne les avions pas, où serions-nous? C'est le curé d'Ars qui disait qu'on adorerait des animaux sans prêtres. Et il avait bien raison. C'est ce qui arrive d'ailleurs aujourd'hui un peu, je crois. Non pas qu'on adore des animaux, on s'adore soi-même. Et alors, Saint-Jean Gualbert s'est bien gardé de rejeter ces hommes qui se présentaient et qui avaient vécu une vie sacerdotale peu recommandable. Quand il voyait qu'ils étaient sincères dans leurs sentiments, il les serrait contre lui et il les aidait. Il ne leur permettait plus de célébrer pour un certain temps la messe parce qu'il avait une très grande conception du sacerdoce. Il voulait les éprouver et refaire en eux leur désir profond de célébrer l'Eucharistie. Le même sentiment de respect du sacerdoce l'a toujours empêché d'être ordonné prêtre lui-même. C'est curieux, il était abbé de monastère, fondateur, réformateur, mais non prêtre. Il ne voulait même pas exercer le rôle de portier. Vous savez qu'autrefois, le rôle de portier d'un monastère ou d'un... Même au grand séminaire, il y avait des portes à la chapelle qui étaient fermées, des grilles. Là. Elles sont toujours là, les grilles, mais elles sont toujours ouvertes maintenant. Mais elles étaient fermées autrefois. Et il y avait un séminariste, quand ils étaient 325 séminaristes, ils ne sont plus qu'environ 50, mais quand ils étaient 325 séminaristes il y a quelques années, eh bien, je me souviens, le séminariste qui s'occupait d'ouvrir ces grilles était un portier. Il avait reçu l'ordre de portier, si on veut. Et puis, comme notre Saint-Jean-Gualbert ne l'était pas, bien, on raconte que le matin, il n'osait même pas ouvrir lui-même la porte de l'oratoire. Il attendait patiemment que le religieux qui était chargé de cet office, qui avait été ordonné portier, lui en permît l'accès. On dira, mais c'était un... Il était bien étroit d'esprit. Il était à cheval sur les choses. Vous savez, dans un monastère, si on n'est pas précis, si on n'est pas, non pas à cheval sur la lettre, il ne faut pas que la lettre tue, mais si on n'est pas précis, on risque de laisser tomber bien des choses. Et c'est ce qui arrive dans certains monastères. C'est dommage. Et je crois que pour la simple vie profonde des membres d'une communauté, il faut une certaine rigueur. Mais là, c'est le jugement du père abbé. Et évidemment que des choses que l'on raconte se sont déroulées au 11e siècle seraient peut-être aujourd'hui, au 20e siècle, complètement farfelues. Mais il faut avoir du respect quand même pour le point de vue des gens qui nous ont précédés, qui n'avaient pas la même mentalité que nous. Jean-Gualbert est donc mort, comme je vous ai dit tout à l'heure, le 12 juillet 1073. Et son prestige était considérable de son vivant. Je vous l'ai dit, il avait attiré à Vallombreuse des tas de gens, mais il avait aussi attiré, j'ai oublié de vous le dire, des papes, des empereurs. Son prestige s'est accru aussi par ses miracles. Et il a été canonisé par le pape Célestin III en 1193, donc 120 ans exactement après sa mort. Sa réforme, c'était très réduit au début, ça a subsisté jusqu'à nos jours. C'est une branche indépendante de l'ordre bénédictin. Ça n'appartient pas à la grande confédération bénédictine. Je vous explique, au cas où vous ne sauriez pas ça, que dans l'ordre bénédictin, c'est comme une confédération de différentes congrégations. Tout à l'heure, ou plutôt hier, je vous ai parlé de Saint-Benoît-sur-Loire, qui est un monastère qui est rallié à la congrégation de la Pierre-qui-Vire. Je vous ai parlé de Saint-Benoît-du-Lac, qui est rallié à la congrégation de France ou de Solesmes, elle a deux noms. Ce sont des congrégations différentes qui sont en France, deux congrégations. Il y en a même une autre. Alors, ces congrégations sont confédérées, c'est-à-dire qu'elles appartiennent toutes à l'ordre bénédictin. Puis, il y a un abbé général qui veille là-dessus, un peu comme le patriarche de Constantinople, qui veille sur le bon ordre des différentes églises orthodoxes qui sont, comme on dit, autocéphales, donc indépendantes les unes des autres. En France, il y a l'abbaye de Chezal-Benoît, qui a été fondée par un disciple de Saint-Jean-Gualbert. Et on sait que Vallombreuse, qui existe toujours, conserve un manuscrit qui est intitulé « Prière de Saint-Jean-Gualbert ». C'est assez beau à lire, mais on n'est pas sûr que ce manuscrit qui a été publié soit autre chose qu'un livre qui a servi à Saint-Jean-Gualbert, mais ça ne semble pas avoir été écrit par lui. Donc Saint-Jean-Gualbert, un saint réformateur, qui a osé poser l'un des gestes les plus étranges de l'histoire du monachisme, c'est d'accuser l'évêque du lieu et l'abbé de son monastère d'être des simoniaques. Quel saint audacieux, réformateur, et ça ressemble un peu à Jésus-Christ, qui dans le temple de Jérusalem s'écrie contre les vendeurs du temple et renverse les tables et a posé des gestes qui sont peut-être encore plus audacieux que ceux de Saint-Jean-Gualbert. Faites non seulement de Saint-Benoît, mais aussi du bienheureux Olivier ou Oliver Plunkett. Je tiens à en parler aujourd'hui, même si c'est un jour en retard, parce que c'est un grand saint irlandais, et comme il y a beaucoup d'Irlandais francisés qui m'écoutent, je crois qu'il serait fier d'entendre ça. C'est un archevêque qui est mort martyr à 52 ans en 1681. Il était né en 1629. Oliver Plunkett était d'une grande famille noble d'Irlande. Il est né au centre de la fameuse île des Saints, Et tout enfant, il a d'abord été confié à un prêtre de sa famille, Patrick Plunkett. Plunkett, ça s'écrit P-L-U-N-K-E-T. Vous allez voir comme c'est un saint intéressant. Il a aimé très tôt Dieu, dit-on, dans les textes les plus anciens, pour lui sacrifier toute sa vie. Il y a quelques siècles à peine. Il avait déjà un grand amour pour Dieu très jeune. À 16 ans, déjà, il est parti pour Rome avec 4 jeunes Irlandais. C'était toute une expédition. Vous savez que voyager à cette époque, on était loin d'avoir les avions qui nous mènent en quelques heures quelque part. Je lisais ces jours-ci que les pèlerins de Lourdes qui partent de Lille, tout près de la Belgique, font le voyage en train extrêmement rapide, en 9 heures, au lieu de 16 heures ou 18 heures. On calcule maintenant de plus en plus les heures, et dans ce temps-là, c'était les mois. Il a étudié la rhétorique, c'est-à-dire l'art de parler en public, à Rome. Il est entré à l'Irish College, le collège irlandais, qui existe toujours. J'y suis déjà allé. Et il a étudié le droit civil et le droit canon, c'est-à-dire les lois de l'Église, le droit canon. Puis il a reçu le sacerdoce, assez jeune. Mais les temps étaient très, très troublés à l'époque, n'oubliez pas. Nous sommes au 17e siècle. C'était terrible. Vraiment terrible. Parce que c'était Cromwell qui dirigeait l'Angleterre protestante. Il persécutait l'Église catholique d'Irlande. Qui était Oliver Cromwell, hein, Olivier? C'est un autre Olivier. Notre héros du jour, c'est Olivier Plunkett. Puis là, c'est Olivier Cromwell qui, lui, est né en 1599. Il est mort en 1659. J'ai déjà lu plusieurs fois la vie de ce puritain étrange. C'était pas un anglican, hein, c'était un puritain. Et il a dirigé le Parlement contre le roi Charles Ier. Il a fait condamner le roi Charles Ier. Il l'a fait exécuter, l'a fait mettre à mort en 1649. Oliver Cromwell avait 50 ans à ce moment-là. Et plus tard, il a même chassé le Parlement, 4 ans plus tard. Puis là, il est devenu vraiment un dictateur épouvantable. Il a soumis les Irlandais, il a forcé les Écossais qui étaient indépendants à s'unir à l'Angleterre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Écossais, de plus en plus, sont ce qu'on appelle des séparatistes, c'est-à-dire qu'ils rêvent à leur indépendance. Ils sont d'ailleurs très puissants dans le rêve d'indépendance en Écosse. On pense qu'ils vont y arriver d'ici quelque temps. Et alors, car les Écossais se sentent très différents des Anglais. Ils ne se sentent pas du tout anglais. Il ne faut jamais dire à un Écossais qu'il est anglais. C'est une... Oh là là, ils n'aiment pas ça en général, du moins. Et alors donc... Cromwell dirigeait cette Angleterre qui était devenue protestante plutôt qu'anglicane. Il persécutait l'Irlande catholique. Il a été chargé par les évêques irlandais, c'est-à-dire Olivier Plunkett plutôt, a été chargé par les évêques irlandais d'aller auprès du pape Clément IX pour plaider pour sa patrie, pour l'Irlande qui était opprimée. Alors, quand est mort l'archevêque d'Armagh, Armagh, c'est dans l'Ulster, l'Ulster en haut, là. Il y a là un archevêché anglicain, cet archevêque anglican est le primat de l'Irlande. Il y a aussi un archevêché catholique à Armagh, toujours. Alors donc, l'archevêque d'Armagh est mort, et il était exilé en France, il avait été chassé par les Anglais. Alors, le pape a donné à la ville d'Armagh pour successeur notre Olivier Plunkett. Il a été sacré évêque à Gand, en Belgique. Vous voyez comme les Irlandais étaient persécutés. Vous savez que les Irlandais ont été persécutés par les Anglais pendant quasiment 700 ans. Il faut lire ça, c'est quelque chose d'épouvantable. On n'a pas idée de la misère des Irlandais pendant des siècles et des siècles. Ils me sont très chers, ne serait-ce que pour ça. Et mais pour bien d'autres raisons aussi. Je suis allé en Irlande et j'ai beaucoup aimé les Irlandais. Et alors, il a été sacré évêque à Gand. Il a été accueilli en Irlande par son parent, là, de tout à l'heure, Patrick Plunkett, qui en était occupé et lui était devenu évêque de Meath, en Irlande du Sud. Alors, il a semblé que tout allait bien, puis là, Olivier Plunkett, en 3 mois, a confirmé plus de 3 000 fidèles. Ça fait beaucoup de petites tapes à la figure si on en donnait à ce temps-là. Et alors, 2 ans plus tard, il y a eu des difficultés terribles. Les dangers ont repris. L'archevêque de Dublin a été exilé par les Anglais encore. Un autre s'est enfui. Et Olivier Plunkett, le père Plunkett, le monseigneur Plunkett plutôt, qui était évêque, a bravé tous les périls, parcourait les montagnes, les forêts. C'était un vrai pasteur, un véritable évêque. Il était à la recherche de toutes ces petites brebis qui s'enfuyaient dans les bois. Il administrait les sacrements dehors, hein, même sous la pluie. Il a caché un évêque. C'était vraiment un être vibrant d'amour, un amour qui se donne. Hein? Un grand évêque. Il s'est rendu clandestinement un jour à Dublin. C'était très dangereux, ça. C'était occupé par les Anglais. Et Monseigneur Olivier Plunkett s'est trouvé arrêté alors qu'il s'occupait d'un mourant. Alors on a inventé qu'il avait comploté un débarquement de soldats français, ce qui est absolument ridicule. Et alors Monseigneur Plunkett a été amené à Londres. Il a passé 3 mois en prison. Il priait. Il ajoutait même le jeûne au peu de nourriture qu'il avait. Il jeûnait davantage. Il était toujours, paraît-il, très courtois. Il était même enjoué, comme un bon Irlandais. Il a témoigné d'une grande sérénité 2 ans plus tard, quand il a été condamné à être pendu et démembré. Pendant les 2 semaines qu'ils l'ont séparé de tous ces tourments horribles, eh bien, Monseigneur Olivier Plunkett écrivait « Je garde bon courage. Je ne crains pas la mort. J'ai exhorté mes gens en Irlande avec de belles paroles. Eh bien, il est bon maintenant d'ajouter l'exemple. » Et au moment d'être pendu et d'être torturé d'une façon absolument abominable, Monseigneur Olivier Plunkett a demandé au bon Dieu de pardonner à ses ennemis. Puis il a confessé fortement sa foi catholique. C'était un homme remarquable, un des Irlandais martyrs de cette époque les plus étonnants. Il est le bienheureux Oliver ou Olivier Plunkett, archevêque, martyr, en 1681, à l'âge de 52 ans. J'aimerais compléter cette petite chronique sur Monseigneur Plunkett, le bienheureux Plunkett, par un petit extrait d'une chronique publiée en dernière page du journal L'Homme Nouveau. Oh, il y a des gens qui pensent que ce journal est d'extrême droite, etc., etc. Je trouve que dans ce journal, on trouve de très beaux articles. Il y en a un, d'ailleurs, cette fois-ci, dans ce dernier numéro, sur Marthe Robin, qui mérite d'être lu. Il y en a un très beau sur Charles Péguy. Il y a des nouvelles très intéressantes, même un très bel article sur le mariage. Mais le dernier article est sur l'Irlande. Et on dit bien souvent que les catholiques et les protestants luttent les uns contre les autres. Est-ce à dire que le Québec catholique s'oppose au Canada protestant? Est-ce qu'il faut dire que notre Premier ministre, M. Parizeau, qui nous a dit l'autre jour à la télévision qu'il allait à la messe tous les dimanches avec sa femme et qu'il est donc catholique, c'est donc un catholique qui s'oppose aux protestants. Faudrait-il dire que les séparatistes sont une bande de catholiques, etc.? C'est absolument invraisemblable. C'est la même chose en Ulster. C'est une question de peuple, deux peuples qui s'opposent. Il dit, si nous serions en présence d'une guerre de religion, mais pas du tout, il n'en est rien. Si ce n'est accident d'histoire, que le colonisateur britannique était protestant, alors que le colonisé irlandais était catholique, si bien que le différend des catholiques d'Irlande avec les unionistes protestants n'est aucunement d'ordre religieux ou théologique, mais se résume très simplement à un problème d'allégeance politique. Ce sont des gens qui sont venus d'Écosse et d'Angleterre et qui occupent l'Ulster, l'Irlande du Nord, et qui veulent maintenir l'union on les appelle les unionistes, avec l'Angleterre, avec la couronne britannique, avec le Parlement de Londres. Et les autres veulent l'unification de toute l'île d'Irlande, parce que ce sont les Irlandais de souche. C'est pas une question de religion, c'est une question de peuple. J'aimerais ça qu'on cesse de dire sur les ondes les catholiques et les protestants, ça me brûle. Je m'excuse de le dire, mais ça me brûle. J'aime pas ça parce que ça attaque la religion et ça fait croire que la religion suscite les guerres. Là-dessus, après cette petite colère, je vous laisse. Je vous rappelle qu'il y a la retraite chez les Pères du Très-Saint-Sacrement, prêchée par mon ami l'abbé Pierre Desroches. C'est au sous-sol de l'église du Père du Saint-Sacrement, tous les jours jusqu'à vendredi inclusivement, sous la grande église.